Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Les béatitudes sont parmi les plus connues des paroles prononcées par Jésus. Mais que signifient-elles? Pour les de retour parmi nous, pour nous aider à les comprendre. Actuellement, nous abordons la septième béatitude, que voici.
Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière.
Merci Marie-Claire. Ce texte se trouve dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, au verset 10 à 12. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité. Paul, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Nous avons appris qu'il est possible de subir des épreuves graves, telles la persécution, et pourtant se considérer heureux et béni. Ceci parce que notre véritable bénédiction et bonheur ne dépendent pas de nos circonstances, mais de notre relation avec Jésus. Nous avons aussi appris que, par le biais de cette béatitude, Jésus avertit et prépare ses disciples. Il ne leur fait pas la promesse d'une vie facile, prospère et paisible. Non. Au contraire, il leur annonce que, du fait de leur foi en lui, ils risquent de subir l'opposition. Cependant, malgré cette persécution, le disciple reste béni, et ceci parce que le royaume de Dieu lui appartient. Et parce qu'il aura une récompense dans les lieux célestes, il a une espérance merveilleuse de la vie éternelle.
Merci Paul pour ce bref résumé. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Jésus lance un appel aux chrétiens persécutés. Réjouissez-vous et soyez heureux. C'est sur cet appel que je voudrais me pencher aujourd'hui.
Cela peut paraître étrange de demander à des personnes éprouvées de se réjouir.
Oui, Yann, je comprends. Toutefois, je voudrais démontrer qu'en fait, c'est une bonne chose à faire. Mais avant, je voudrais faire une précision importante.
Laquelle?
Jésus ne nous demande pas de nous réjouir parce que nous sommes persécutés ou éprouvés. La persécution et les épreuves ne sont pas un sujet de joie. Au contraire, ce sont des maux et des malheurs dont il est légitime de se lamenter. Il n'y a pas honte non plus à en pleurer. Ce sont des sources de souffrances graves et douloureuses.
Pourquoi Jésus nous demande-t-il alors de nous réjouir dans de telles circonstances?
Parce que le fait de délibérément se réjouir, même si nous n'avons pas trop envie, va nous aider à apaiser nos peurs et à sortir du désespoir.
Comment?
Parce que Jésus nous exhorte à nous réjouir de vérités qui changeront notre perspective sur nos épreuves et nous aideront à voir nos épreuves sous une lumière nouvelle. Ces vérités nous aideront à réorienter nos pensées et nos sentiments troublés vers la paix, la joie et l'espérance. Lors de nos deux dernières émissions, nous avons appris que le chrétien persécuté et éprouvé ne cesse d'appartenir au royaume de Dieu et qu'il aura une récompense au ciel, notre héritage éternel. Nous avons parlé un peu des grandes bénédictions qui découlent de ces deux vérités. Et ce sont ces bénédictions, ces vérités merveilleuses, dont nous devons nous réjouir. J'insiste que lorsque nous faisons l'effort de se réjouir de ces vérités, et bien d'autres encore, notre tristesse peut céder la place à la joie. Nos peurs cèdent leur place à la paix. Notre désespoir cède sa place à l'espérance. Notre foi est fortifiée et nous trouvons la force et le courage de persévérer à travers nos circonstances éprouvantes.
Merci, Paul. Nous comprenons ainsi la véritable visée de cette exhortation à se réjouir. Jésus ne veut pas que ses disciples sombrent dans la détresse, le découragement ou le désespoir. Non. Bien au contraire, il désire les aider à surmonter ces sentiments pour retrouver une certaine sérénité et confiance.
C'est exact, Ian. Vous avez bien compris.
Mais Paul, comment mettre cette exhortation à se réjouir en pratique?
Pour appuyer mes propos, je pense à un épisode biblique que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. l'apôtre Paul et son collaborateur Silas étaient dans la ville de Philippe qui se trouvait en Grèce. Ils étaient là pour témoigner de Christ et pour implanter une église. Un jour, Paul a délivré une jeune fille, une esclave, d'un esprit de divination. Le maître de l'esclave n'était pas content parce qu'il ne pouvait plus profiter économiquement des dons de divination de son esclave. Du coup, il a mené une manifestation dénonçant les activités de Paul et de Silas, et les autorités ont détenu ces derniers après les avoir battus à coups de fouet. La nuit venue, Paul et Silas gisaient en prison, leur corps meurtri, privé de liberté, faisant face à un avenir incertain. Voilà un exemple concret de la persécution.
Mais qu'ont fait Paul et Silas en prison? Ont-ils pris au sérieux l'exhortation de Jésus à se réjouir?
Je suis convaincu que oui. Car dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, le verset 25, nous lisons « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. »
C'est incroyable!
Incroyable, mais vrai. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'une illustration de comment mettre en pratique la béatitude dont nous parlons. Autrement dit, nous avons une réponse à la question « Comment se réjouir lorsque nous sommes éprouvés par la persécution ou autre chose ?» Il y a deux réponses possibles. Nous pouvons chanter les louanges de Dieu et nous pouvons prier. Paul et Silas étaient en piteux état, mais ils ont trouvé la force et ils ont eu le réflexe de chanter des louanges de Dieu et de prier. Et je suis sûr que cela leur a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, cela a aussi servi comme un témoignage aux autres prisonniers. Je ne peux qu'encourager tout chrétien éprouvé à trouver du temps pour chanter les louanges de Dieu, à chanter des bons cantiques qui nous rappellent les gloires du caractère de Dieu et les grâces que toutes ces bénédictions apportent pour ceux et celles qui lui appartiennent. Alors que nous chantons ces cantiques de louanges, ces vérités envahiront de nouveau notre cœur, notre perspective sur nos épreuves changera, et nous retrouverons les forces de persévérer et d'aller de l'avant.
Merci, Paul. Il est donc bon de mémoriser quelques cantiques, afin de pouvoir les chanter dans les moments où nous en aurons les plus besoin.
Oui, c'est une bonne idée, Ian. De nos jours, nous avons des appareils et téléphones qui peuvent diffuser la musique et sauvegarder nos cantiques préférés. Mais malgré cela, il est toujours bon de mémoriser quelques-uns, car nous ne savons pas si un jour nous nous trouverons privés de ces appareils.
Merci, Paul, de nous avoir si bien aidés à comprendre pourquoi il est bon pour le chrétien éprouvé de faire l'effort de se réjouir. C'est ainsi que nos discussions au sujet de cette béatitude se terminent. Nous vous remercions pour votre participation enrichissante tout au long de cette série.
Merci, Ian, et au revoir à tous.
À présent, le moment est venu pour une courte méditation biblique dans le livre du prophète Ésaïe. André est de retour pour nous faire part de ses réflexions. Mais d'abord, Marie-Claire nous lira du livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, les versets 1 à 3.
Maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur.
Merci et bonjour à tous. Le prophète Ésaïe exhorte le peuple de Dieu à ne pas avoir peur, malgré les difficiles épreuves qu'il devra traverser. Les images du fleuve et du feu représentent ces épreuves. Puis, tout à la fin du texte lu, le prophète affirme et rappelle que Dieu est, pour le peuple, un sauveur. Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur la question de la mort, une réalité tragique, et répondre à cette question. En quoi Dieu est-il un sauveur? Comment le prophète peut-il affirmer que les eaux ne nous submergeront pas et que les flammes ne nous brûleront pas, alors que, dans la réalité quotidienne, beaucoup d'épreuves conduisent des gens à la mort? Tous les jours, des gens meurent de maladies graves telles que le paludisme ou le sida. Tous les jours, des gens meurent assassinés dans des attentats, des accidents de la route. Enfin, nous finissons tous par mourir. Comment parler donc d'un Dieu sauveur ? Le Nouveau Testament atteste ou éclaire que Dieu nous préserve à travers la mort si nous croyons en Jésus-Christ. Selon le Nouveau Testament, Dieu est venu parmi nous en la personne de Jésus-Christ pour, entre autres, nous sauver de la mort. Jésus est le Sauveur. Jésus est mort sur la croix, mais la mort n'a pas triomphé de lui, car 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et si nous croyons en Jésus notre Sauveur, il garantit que nous aussi, nous ressusciterons de la mort. Nous pouvons avoir l'impression que la mort a le dernier mot sur la vie, mais ce n'est pas vrai. Jésus a remporté la victoire sur la mort et du coup, la mort n'est pas la fin, la mort ne nous anéantit pas. Non, bien au contraire, pour celles et ceux qui croient en Jésus-Christ, la mort est simplement un passage sombre qui conduit au perfectionnement de notre salut. Si donc nous pouvons comparer la mort au fleuve dont parle le prophète, nous pouvons dire que la mort ne nous submergeront pas. Si nous pouvons comparer la mort au feu dont parle Ésaïe, nous pouvons dire que la mort ne nous brûlera pas. Oui, la résurrection représente l'accomplissement de notre salut, car par elle, nous sommes délivrés de notre ennemi le plus redoutable, la mort. Par la résurrection, nous sommes délivrés de ce monde mauvais et malheureux pour vivre dans une nouvelle création, éternellement, dans la présence de Dieu, un lieu sans larmes car il n'y aura plus de raison de pleurer. Par la résurrection, nous sommes délivrés de toute influence maléfique et mauvaise qui peuvent affliger notre vie, car il n'y aura ni mauvais esprit, ni malfaiteur dans la présence éternelle de Dieu. Le chrétien peut donc avoir une attitude plus paisible face à l'approche de la mort. Il peut s'appuyer sur les paroles du prophète. Ne sois pas effrayé, sachant avec certitude que la mort conduit au perfectionnement de son salut, il peut s'accrocher à cette espérance merveilleuse qui constitue en la résurrection à la vie éternelle.
Merci André pour ce formidable rappel. Nous vous remercions pour votre participation tout au long de cette série. Et c'est ainsi que nos 2 séries se terminent. La prochaine fois, nous commencerons une nouvelle série d'émissions dans l'Évangile de Luc. Nous étudierons quelques rencontres de Jésus avec des personnes et verrons en quoi leur vie a changé. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.